mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ces Nouvelles du Monde pour le jeudi 22 janvier 2026. En guise de préambule, on va faire le sommaire des Nouvelles du Monde, mais je vais plutôt vous partager avec vous, le sommaire du dernier numéro de Nunatak, une revue d'histoire, de culture et de lutte des montagnes, dont certains des rédacteurs et rédactrices ont ou participent épisodiquement à Radio Escapade. Donc on a eu le nouveau numéro sous les yeux, tout frais, tout neuf. Vous pouvez le retrouver dans pas mal de points de vente de la région, des cafés, des librairies, etc. Il y est question dans ce nouvel opus du voyage dans les montagnes albanaises à la découverte du Kanoun, ça s'appelle le pain, le sel et le cœur. De quoi parle-t-on quand on parle d'écobuage? Un article qui s'intéresse donc à l'écobuage et qui s'appelle Raviver la flamme. On y parle aussi des JO d'hiver, 25 ans de lutte alpine, puisque ceux de 2030 aussi s'annoncent. S'annonce sous les augures de réchauffement climatique et autres déboires environnementaux. Il y a un extrait d'un roman, La guerre au papier, de Charles-Ferdinand Ramouz. Le récit d'une lutte victorieuse en Haute-Loire avec le titre « Ce barrage nous fout la rage » où il est question donc d'un projet de barrage. Et enfin, une discussion sur les luttes dans le monde agricole sous le titre « Confusion paysanne ». Voilà. Donc de l'histoire, de la géographie, mais aussi de l'actualité, des choses bien proche de ce qui se passe en ce moment. C'est dans le dernier Nunatak, c'est le 11e numéro. Et d'ailleurs, je crois que les anciennes revues sont disponibles en ligne sur leur site revuenunatak.noblogs.org. Allez, on attaque ce petit tour d'actualité avec pas mal de brèves. Tout d'abord, celle qui revient sur la mort de El Hassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans qui est mort dans la nuit du 14 au 15 janvier de cette année dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris suite à une garde à vue. L'autopsie révèle des actes de torture. Les caméras des policiers étaient malheureusement, on va dire, désactivées. La mort donc de El Hassen Diarra intervenait après une arrestation d'une brutalité extrême qui a été filmée par des voisins, par des policiers, donc des brigades territoriales de contact, hein, sacré nom. Au niveau du contact, on était dans une rue située à quelques pas du foyer de travailleurs où il vivait. Alors que les derniers éléments de l'enquête confirment la thèse d'un crime policier, et ce, donc malgré des images d'interpellation accablantes, le ministre de l'Intérieur, lui, faisait la tournée des plateaux télé pour assurer, on va dire, le service après-vente des agents responsables et expliquer qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Plusieurs jours après le drame, l'autopsie de El Hassen a été pratiquée par les médecins légistes. L'avocat et la famille se demandaient d'ailleurs pourquoi elle prenait autant de temps à avoir lieu cette autopsie. La réponse est assez macabre, hein, puisque l'examen clinique du corps de la victime démontre que les forces de l'ordre ont fait preuve d'une violence inouïe. On lit dans ce rapport que le trentenaire est mort d'une défaillance cardio-circulatoire, que son corps révèle une fracture de la thyroïde, compatible avec un étranglement donc, mais aussi une plaie profonde au niveau de la tempe. Et frapper une personne dans cette partie du visage aussi fort est potentiellement mortel. À la suite d'une visite de 4 prisons et d'un établissement pénitentiaire pour mineurs, le CPT, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, a dénoncé aujourd'hui l'état des prisons françaises. Il met en garde dans son rapport contre une évolution des prisons vers un entrepôt humain. Nous sommes extrêmement inquiets quant aux conditions d'incarcération en France, déclare Alan Mitchell, le président de ce fameux comité de prévention de la torture. Ainsi, un rapport a été établi suite à ce qu'une délégation de ce comité fin 2024 visite 4 prisons françaises, donc Fleury, Mérogis et Fresnes pour la région parisienne, Les Baumettes à Marseille et Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Et ils ont aussi d'ailleurs visité l'établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine qui est située à Marseille. Le bilan de la visite, l'accroissement de la surpopulation carcérale est particulièrement alarmant. La surpopulation carcérale peut transformer une prison en un entrepôt humain, écrit donc ce comité, dont le rapport précédent sur la France remontait à 2021. La très grande majorité des détenus rencontrés n'a en revanche pas fait état de mauvais traitements physiques de la part du personnel. C'est ce que reconnaissent aussi les auteurs du rapport. En revanche, c'est les temps quotidiens d'incarcération qui sont incroyablement longs. Parfois, on parle de plus de 20 heures passées en cellule, sans donc aucune activité qui font normalement partie aussi du processus d'incarcération. On part en Ukraine où la centrale nucléaire de Tchernobyl a été déconnectée plusieurs heures de son réseau électrique. C'était ce mardi, le 20 janvier. La centrale de Tchernobyl a perdu toute alimentation externe et les lignes électriques vers d'autres centrales nucléaires ont également été affectées, annoncé à 11h42 la IEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette coupure d'alimentation intervenait dans le cadre d'attaques russes intenses menées ces derniers jours contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, dans le cadre de la guerre d'invasion qu'elle mène dans ce pays. Depuis plusieurs années maintenant, des milliers d'immeubles d'habitation de la ville de Kiev sont privés de chauffage et d'électricité, alors même que le pays affronte une forte vague de froid. C'est pas la première fois que la centrale de Tchernobyl est dangereusement touchée par la guerre en cours. On rappelle qu'elle était accidentée depuis 1986. Qu'elle avait carrément explosé. Hein. La centrale avait connu une rupture d'électricité, par exemple, en 2022. Un drone russe avait aussi gravement endommagé, en février dernier, l'arche de confinement, le sarcophage qui a été coulé au-dessus du réacteur accidenté. Le tout pour éviter la dispersion des particules radioactives qui proviennent du réacteur qui a explosé en 1986 lors de la catastrophe du même nom. Et en effet, la centrale est donc toujours en train de chauffer. Hein. Cette situation fait donc peser un risque majeur sur la sûreté nucléaire, hein, puisque à environ 20 000 assemblages de combustibles nucléaires entreposés sur le site dans des piscines ont toujours besoin d'être refroidis, et ce constamment, pour éviter un nouvel accident. En effet, une fois qu'ils ont été extraits de la cuve du réacteur, les assemblages de combustibles usés dans une centrale continuent à dégager une forte chaleur pendant des années. Cette chaleur doit absolument être évacuée pour éviter donc que ces combustibles ne surchauffent, ne fondent et ne produisent un accident nucléaire. Et bien ce refroidissement n'est possible que s'il y a de l'électricité. Si ce n'est pas le cas, les pompes ne refroidiront pas et en conséquence, la température dans les bassins de rétention augmentera. Des substances radioactives seront libérées dans l'environnement. Le risque de rupture d'approvisionnement en électricité d'un site nucléaire à cause d'une guerre, inquiète d'ailleurs les experts de l'énergie nucléaire au niveau mondial. En 2022, le journal Reporter interrogeait la directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, son nom est Karine Herview, et elle relativisait malgré tout le danger pour Tchernobyl. Elle explique qu'il reste là-bas 4 réacteurs de type RBMK. Ce sont des réacteurs de grande puissance à tube de force, ils sont tous à l'arrêt, et donc environ 20 000 assemblages de combustible relativement froid, donc des barres de combustible, qui sont entreposées dans des piscines. En cas de perte de refroidissement, l'eau mettrait beaucoup de temps à se réchauffer et ne dépasserait pas 60 degrés, mais dit-elle, cela reste un enjeu, en tout cas pour la population locale.
Je vous annonce la fin du monde! Tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Allez, pour se détendre, on va parler un peu de foot et de Trump, puisque à 5 mois du Mondial 2026, des supporters, des élus et des ONG s'interrogent sur leur participation ou non à cet événement planétaire, le Mondial 2026, qui est organisé en partie dans le pays de Donald Trump, les États-Unis, pour lutter contre la politique impérialiste américaine. Ça serait dans le cas d'un boycott. Ça vient d'un Néerlandais de 55 ans, le cofondateur d'une célèbre marque de chocolat, qui a signé une pétition appelant au boycott donc de cette prochaine Coupe du Monde de football, qui sera donc, je vous le disais, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et 5 jours après la mise en ligne de cette pétition, le texte dépassait les 120 000 signatures. Et ça, c'était donc hier soir. Sous la pétition, on pouvait lire des commentaires assez gratinés, des petits rappels historiques, par exemple, en 1936. L'équipe nationale néerlandaise de football a boycotté les Jeux Olympiques d'été de Berlin. Suivons cet exemple. Ça, c'est un des signataires. Du côté de l'Allemagne aussi, le malaise a carrément été mesuré par un institut de sondage. Est-ce que l'Allemagne doit boycotter la Coupe du Monde si les États-Unis annexent le Groenland ? À cette question, près de la moitié des personnes interrogées ont répondu oui. Du côté de la France, eh bien, c'est du côté des Irréductibles Français, le principal club de supporters des Bleus, qu'on discute de ça aussi, mais on a annoncé laisser la liberté à chaque membre de décider s'il souhaitait ou non se rendre à cette Coupe du Monde. En effet, le temps presse puisque les billets seront en vente à partir de ce 5 février et ils partent vite et ils sont chers. Donc c'est l'ouverture de la billetterie à des supporters des équipes nationales. D'ailleurs, Ronan Evin, qui est le président de l'association Football Supporters Europe, voit cette question arriver à l'ordre du jour de l'association. Il rappelle qu'au moins pour la Coupe du Monde du Qatar, on savait où on allait. Là, dit-il, la Coupe du Monde a lieu dans 5 mois. Il peut se passer beaucoup de choses. En Angleterre, c'est le célèbre animateur britannique Piers Morgan, qui a longtemps officié sur CNN, donc une chaîne américaine, lui explique ceci. Peut-être que l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Norvège et l'Italie devraient suspendre leur participation à la Coupe du Monde. Donc là, il parle des équipes. Le temps que se poursuivent les négociations tarifaires avec le président Trump. Le retrait de 8 des 10 équipes favorites pourrait faire réfléchir. Il a lancé ça quand même sur sa fenêtre X à ses 9 millions d'abonnés. Un appel au boycott qu'a trouvé un écho d'ailleurs pour ce qui est de l'Angleterre jusqu'à l'enceinte du Parlement britannique. Alors en France, c'est France Info qui fait ce petit résumé. Ils ont contacté la Fédération Française de Football qui n'a pas répondu. Du côté des ministères des Sports, la ministre Marina Ferrari, lors de ses vœux de ce mardi soir, expliquait « Au stade où nous parlons actuellement, il n'y a pas de volonté de boycott du côté du ministère pour cette grande compétition qui est attendue. Maintenant, dit-elle, je ne préjuge pas de ce qu'il pourrait se passer. » Alors du côté des instances mondiales, un congrès de l'UEFA mi-février à Bruxelles pourrait permettre de s'accorder éventuellement sur une échelle de riposte graduée. Reste qu'il faudrait plus qu'une passe d'armes douanière pour décider un milieu sportif toujours plutôt frileux à faire primer l'éthique sur le sportif. Hein, quand même la FIFA, l'UEFA, c'est effectivement pas forcément des ONG de défense des droits de l'homme. Je pense que les gouvernements auront une influence majeure et si boycott il y a, ce sera sur leur impulsion plus que sur celle des fédérations, rappelait d'ailleurs ce Ronan Evin de l'association des supporters européens, à l'image, dit-il, de ce qui s'est passé quand la Russie a été exclue des compétitions internationales après l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a une hypothèse de boycott qui tourne, qui se cristallise, tant dans l'opinion que chez les décideurs, et donc du côté des ONG, elle trouve un écho favorable pour qui, à juste titre, les Coupes du Monde deviennent de plus en plus des rendez-vous politiques. Si on écoute les mots de Steve Cockburn de Amnesty International, les supporters qui se rendent aux États-Unis courent des risques réels. Des arrestations pour infraction à la politique d'immigration américaine, une impossibilité de participer à des manifestations spécifiques ou une obligation de donner accès à leurs comptes de réseaux sociaux pour vérification. Car je vous rappelle que si vous avez partagé par exemple des posts anti-Trump sur Facebook et que ça se sait, normalement vous pouvez aussi vous faire bouler lors de l'arrivée aux États-Unis à la douane. Enfin, un poste de la police aux frontières. Comme pour le mondial au Qatar, d'ailleurs, Amnesty n'appelle pas au boycott, mais plutôt à une sensibilisation des instances. Et pour Football Supporters Europe, toujours, Ronan Evans s'interroge aussi sur une grosse incertitude sur ce qui sera autorisé ou pas. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on brandit un drapeau LGBT en tribune ou bien un drapeau du Groenland ? D'habitude, la FIFA impose ses règles dans les enceintes, mais là, dit-il, on n'est vraiment pas sûr que ça sera le cas. Rien que, par exemple, savoir si les matchs auront lieu dans des villes démocrates, puisque cela est lieu au bon vouloir de Donald Trump, ça, c'est une grosse question, sachant que Trump a, par exemple, dans son collimateur Seattle, la communiste, et certainement maintenant Minneapolis, d'où l'intérêt pour le Fair Square, une ONG, porté avec son porte-parole Nick McGreehan, l'intérêt, dit-il, de la politique de la chaise vide en tribune. Car cette ONG Fair Square est particulièrement inquiète d'une gouvernance éthique du football, et pour lui, ce sera potentiellement un levier très, très puissant. L'homme le plus puissant du monde a toujours été particulièrement soucieux de son image, rappelle-t-il, ce serait personnellement un coup dur aussi pour lui. Je soupçonne qu'il prendra au sérieux toute menace susceptible de le priver d'un rôle central dans le plus grand spectacle du monde, ça le toucherait sur son principal point faible, sa vanité.
Des nouvelles du monde.
On reste à l'étranger, on part au Moyen-Orient où 11 personnes, dont 3 journalistes, ont été tuées à Gaza. L'un des journalistes était un collaborateur de l'AFP, l'agence France-Presse, qui relate donc cette information. La frappe israélienne a ciblé le centre de Gaza. Les journalistes y participaient à une mission humanitaire. C'est ce qu'affirme le comité de secours égyptien. Ce n'est pas la version israélienne. Tsahal, lui, explique avoir visé des suspects pilotant un drone lié au Hamas. Plus tôt dans la journée, 2 enfants, une femme et 2 hommes, ont succombé à des tirs d'artillerie dans les villes de Deir al-Balah et de Khan Younes. Les autorités palestiniennes affirment que 450 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025 dans la bande de Gaza. Et en Iran, patrouille, propagande et désespoir. Voici comment une des correspondantes du Financial Times en Iran décrivait dans un article de ce 18 janvier l'atmosphère qui règne aujourd'hui à Téhéran après la répression sanglante de la vague de contestation. Une répression qui a fait des milliers de morts. Et cette vague de contestation, on le rappelait, était sans précédent depuis 1979, qui a secoué la République islamique, donc au début de ce mois. Les habitants de Téhéran décrivent une ville sous un régime quasi martial, avec des forces de sécurité déployées dans les rues, en grande partie désertes, alors qu'habituellement elles sont animées. Et aussi une population majoritairement confinée chez elles. Ça, ce sont les témoignages de Radio Farda, qui est hostile au régime iranien. Les policiers sont déployés en grand nombre et patrouillent armés. Parfois, ils célèbrent leur victoire en criant « Nous avons gagné » et en défilant avec le drapeau de la République islamique. C'est ce qu'a raconté un témoin depuis Téhéran au site Iran Wire. Après avoir réprimé la contestation dans le sang, les autorités iraniennes ont imposé une chape de plomb et lancé une chasse tous azimuts contre les dissidents. Cette chasse cible notamment les familles des manifestants tués, notamment lors de leurs funérailles. Ils saisissent des biens et des entreprises. Ils poursuivent aussi certaines figures publiques. Des témoignages de mauvais traitements contre des détenus commencent aussi à émerger. Voilà, un dossier est consacré à cette affaire dans le dernier numéro du Courrier International qu'on peut consulter en ligne. Il analyse les témoignages donc reçus à travers la presse étrangère. Quelques questions. Donc, où sont passés les Américains? Une question qui revient en boucle. Les Iraniens ont le sentiment d'avoir été manipulés, dupés, trompés, fulmine un de ces témoignages dans le magazine Time. Les 13 et 14 janvier, Donald Trump avait en effet clairement incité les manifestants à prendre le contrôle des institutions, promettant qu'une aide était en route. Et puis, plus rien. Il est reparti à la conquête du Groenland, oublier l'Iran, au moins pour un temps. Et pourtant, le président américain a bel et bien failli ordonner une opération. Mais Israël et les pays du Golfe l'en ont dissuadé, puisqu'il serait trop risqué pour la stabilité de la région et le commerce mondial, le tout transitant pour une bonne part par le détroit d'Ormuz. Et puis aussi, certains analystes rappellent que le dispositif militaire américain a été trop fragile pour assurer notamment la sécurité d'Israël. Depuis pourtant, les Américains renforcent bien leur présence militaire dans la région, mais pour les Iraniens, il est déjà bien tard. Et si l'hypothèse d'une intervention n'est peut-être toujours pas écartée, en tout cas pour The Jerusalem Post, rien ne garantit à court terme un effondrement du régime, bien au contraire. Un jour sans doute, l'ayatollah Khomeini finira par disparaître, mais les piliers du régime, à commencer par les gardiens de la révolution, eux sont solides. C'est en tout cas ce qu'analysait le média L'Orient le jour. On part en Indonésie maintenant, où dans le cadre de la déforestation, l'Indonésie vient de révoquer justement les permis de 28 entreprises, et cela fait suite aux inondations meurtrières qu'a connues l'archipel. En Indonésie, les entreprises qui sont responsables donc, de la déforestation sont sanctionnées et pointées directement du doigt comme la cause des inondations meurtrières. Le gouvernement a annoncé il y a 2 jours la révocation donc, de permis de 28 de ces entreprises d'exploitation forestière, mais aussi minières et hydroélectriques. Ces entreprises sont coupables de violations, a dit à des journalistes le 20 janvier le ministre du secrétariat d'État, Prasetyo Hadi, sans que la nature exacte de ces violations ait été précisée. Visiblement, il cherche aussi à refiler la patate chaude et à ne pas assumer peut-être les responsabilités gouvernementales. Ces décisions font suite donc à des inondations qui ont frappé l'île de Sumatra en novembre 2025, faisant plus de 1000 morts et 7000 blessés. La catastrophe avait aussi entraîné une famine, accentuant le nombre des victimes. Après ces inondations, donc la déforestation a été vivement critiquée, accusée d'avoir accentué les crues soudaines et les glissements de terrain. Les arbres jouent en effet un rôle déterminant pour retenir le sol et ralentir le cycle de l'eau. Ainsi, plus de 240 000 hectares de forêts primaires ont été perdus rien qu'en 2024 en Indonésie, selon l'analyse du projet Atlas Nusantara, qui a été fait par The Tree Map, hein, c'est une start-up de surveillance de la forêt. Ces révocations des 28 permis ne régleront cependant pas l'ensemble du problème, puisque à la fin du mois de décembre, le gouvernement indonésien annonçait également autoriser là de nouvelles plantations d'huile de palme après une pause de 13 ans. Et les cultures de palme sont elles aussi accusées d'aggraver la déforestation, en plus de violer de nombreux droits humains.
C'est quand même bien fait.
L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur va-t-il être suspendu ? Vous le savez, il a été approuvé le 9 janvier par la Commission européenne. Ce texte d'accord de libre-échange vise à établir la plus vaste zone de libre-échange du monde en liant le marché européen commun à celui qui existe déjà entre les pays sud-américains, Brésil, Argentine, Bolivie, Paraguay et Uruguay. Sauf qu'hier, le mercredi 21 janvier, le Parlement européen a voté à Strasbourg en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité de ce texte. 334 eurodéputés ont voté pour cette saisine, 324 contre et 11 se sont abstenus. C'était vraiment tendu et ça s'est joué à très très peu. Cette saisine bloquerait, si elle arrivait à terme, en théorie, l'entrée en vigueur du Mercosur pendant plusieurs mois. La Commission européenne a cependant la possibilité d'appliquer quand même le traité à titre provisoire si elle le souhaite. Le vote a été acclamé par les agriculteurs qui, pour certains, avaient passé la nuit devant le Parlement à Strasbourg. Ce vote illustre ce que nous disons depuis des mois. Il n'y a pas de majorité acquise au sein de l'Union européenne en faveur de l'accord le plus nocif jamais négocié par l'UE. C'est ce que expliquait dans son communiqué le collectif national Stop Mercosur, dont fait partie la Confédération paysanne. Toute application provisoire de l'accord serait un scandale démocratique inacceptable, bafouant le parlementarisme et les institutions européennes.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Allez, on termine ces nouvelles du monde avec un petit peu de lutte pour voir que tout n'est pas plié. Ce sont des étudiants d'Agro Paritech, cette prestigieuse école d'agronomie qu'on appelait avant l'Agro, tout simplement, l'Institut National Agronomique. Ces étudiants occupent depuis le 20 janvier deux bâtiments de leur campus en opposition justement à l'accord entre l'UE et le Mercosur et aussi en opposition aux politiques agricoles en général. Hier soir, trois agriculteurs du coin sont d'ailleurs venus soutenir la centaine d'étudiants de cette prestigieuse école d'agronomie qui est maintenant située à Palaiseau en Essonne. Cette occupation dénonçant la politique agricole du gouvernement. Les étudiants et étudiantes sont notamment engagés contre cet accord donc, du Mercosur. Et depuis deux jours, elle et ils donc, occupent une partie de leur campus. Une trentaine d'entre eux dorment d'ailleurs sur place. Des dizaines de tables et de chaises sont empilées, condamnant plusieurs portes d'accès du premier étage des deux bâtiments. Les cours en présentiel, suspendus jusqu'à la fin de la semaine, eux ont basculé en ligne ou bien ont été reportés. C'est un journaliste du journal Reporter qui s'est rendu sur place pour ce reportage. À l'origine de la mobilisation, donc soutenue par l'antenne locale des soulèvements de la terre, on trouve un collectif qui s'appelle Agro en lutte, un collectif d'étudiants d'Agro Paritech mobilisés pour la justice sociale sous toutes ses formes. C'est ce qu'explique sa page Instagram. La conférence débute par la prise de parole légèrement désordonnée de quelques membres de la coordination, dont un des jeunes étudiants explique justement que comme ils sont en autogestion, ils n'ont pas pensé à désigner des personnes pour animer la discussion, ce qui déclenche une rumeur amusée devant ces jeunes qui, pour certains, s'essayent, et donc pour la première fois, une mobilisation politique de cette ampleur. Un des mots d'ordre inscrit au marqueur sur le tableau de l'amphi revient sans cesse dans les interventions. Il s'agit de « stop à la co-gestion », à savoir la co-gestion des politiques agricoles entre le gouvernement et le syndicat agricole productiviste, donc la FNSEA, mais aussi la co-gestion des formations entre l'agro-industrie et justement la direction de l'école agro-paritech. Pendant plus de deux heures, des questions affluent au cours de cet AG, notamment des questions pour les agriculteurs présents sur place. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ferme agroécologique ? Que faire de notre diplôme ? Où travailler plus tard ? Que pensez-vous des plans alimentaires territoriaux ? Est-ce un bon outil, etc. Donc, des demandes de témoignages aussi de gens qui sont sur le terrain. La mobilisation de ces jeunes a fait des émules, puisque, par exemple, Dans ce reportage, j'ai fait mention de Paul, un étudiant lui de Centrale Supélec, à une autre école d'ingénieurs, qui est venu sur place soutenir ses camarades d'AgroParisTech. Selon cet étudiant, d'ailleurs, sensibiliser les nouvelles générations au combat, commencé par les anciennes promotions, est crucial. Le contexte étudiant fait qu'il y a un turnover rapide. L'administration joue d'ailleurs sur ça. On essaye donc de faire en sorte que les générations ultérieures soient aussi dans le coup. Trois étudiantes en première année d'ingénieur font partie des nouvelles recrues qui sont venues participer à quelques-unes de ces assemblées générales et ressortent de la conférence avec des questions plein la tête, notamment celles sur les limites du technosolutionnisme et des machines qui se renouvellent sans cesse, mais aussi, par exemple, l'intérêt de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, ou des pratiques agricoles alternatives. Voilà, parmi les revendications locales de ce mouvement porté par Agro en lutte, se trouve une demande de rupture dans la gestion de la ferme de Grignon, dans les Yvelines. C'est la ferme historique, justement, de l'Institut National Agronomique. Un lieu expérimental qui est aujourd'hui, pour ces jeunes, un exemple de la vision pseudo-agroécologique et technosolutionniste d'AgroParisTech. On peut notamment croiser certains animaux. Vous savez, on parlait des vaches à hublot. Ben, ils ont là-bas des chèvres à hublot. Hein. Je les ai vus, puisque j'ai aussi passé un bout de la jeunesse sur les bancs de cette école. Voilà. Le mouvement est l'occasion donc, de sensibiliser les étudiants à ces enjeux locaux. Et ben, gageons que dans ces petits moments de communication et d'occupation, les étudiants apprennent certainement au moins autant qu'en cours, puisque l'état du monde aujourd'hui nécessite peut-être un peu d'urgence, notamment pour ceux qui sont en première loge dans ces problématiques. Dans un communiqué daté d'aujourd'hui, l'école AgroParisTech assure que son objectif premier est de former ses étudiantes et étudiants et de leur donner des outils pour développer des solutions durables pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la forêt. Il explique que la direction a rencontré les étudiants contestataires.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
Allez, on se quitte là-dessus pour les nouvelles du monde. Et comme aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je vais faire un peu ce que je veux. Et ben, on va écouter les Youth Avoiders, justement, les éviteurs de jeunesse, et un morceau Endless Fight, car oui, la vie, c'est une bataille sans fin, et que le punk, ça se pratique à tout âge. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt. Cet après-midi, on a rendez-vous avec Bois Vert, qui vont passer en studio, nous présenter quelques morceaux et puis chanter certainement puisqu'il joue à Sumène ce samedi. Donc voilà, un petit peu de live. Ce soir, vous avez les Reggae Soundbox aussi qui seront en live au Platine. Bref, que de la bonne musique à suivre sur les ondes de Radio Escapade.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.